Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Stéphane Pedretti.
Il reste une demi-heure de cotation à la Bourse de Paris. Le CAC est en progression de pratiquement 0,4%. Réaction mesurée ce lundi sur les marchés financiers. L'attaque de ce week-end contre l'État d'Israël n'a pas entraîné de mouvement de panique, Aude Kersulec.
Oui, c'est mesuré sur les marchés actions comme réaction, mais vous voyez, on a tout de même perdu pas mal d'avance hein, qu'on avait tout au long de la journée. On gagnait plus de 1%. Et là, alors qu'approche la fin de séance, nos gains se réduisent nettement. On gagne plus que 0,4%. Alors, c'est vrai que Wall Street a aussi ouvert dans le vert, mais quand même plus modérément, alors que le Nasdaq maintenant recule. Et pourquoi la tech recule? Bah, c'est aussi à cause de ce mouvement sur les marchés obligataires, les taux qui continuent de flamber. On a une nouvelle poussée hein, avec le taux 10 ans américain qui est repassé sur les 4,64%. Et forcément, ça affole un petit peu les valeurs de la tech et les valeurs de croissance.
Un nouveau chiffre confirme la bonne tenue de l'économie américaine. Les ventes au détail ont progressé de 0,7% au mois de mars. Cela confirme une fois encore qu'il n'y a pas d'urgence à baisser les taux aux États-Unis. Avec quelles conséquences pour la Banque Centrale Européenne? On va en débattre avec nos invités du club dans un instant. Apple détrôné par Samsung sur le marché mondial des smartphones. Les ventes d'iPhone ont reculé de pratiquement 10% au premier trimestre. Le titre Apple est en baisse, légère baisse sur le marché américain. 17h04. C'est l'heure du club avec nos invités.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Les deux clubbers du lundi, Christian Parizeau, économiste, conseiller auprès de Aurel BGC. Bonjour Christian.
Bonjour.
Et bonjour à vous, Kevin Tauzet, membre du comité d'investissement de Carmignac. D'abord un mot d'actualité, évidemment, l'attaque sur l'État d'Israël ce week-end, qui n'a pas entraîné un mouvement de panique sur les marchés actions. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette relative indifférence des marchés? Est-ce que le risque était attendu, donc pricé. Est-ce que ce sont les appels à la désescalade qui ont fonctionné, Kevin, à votre avis?
Il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'en effet, ça peut sembler, ou en tout cas la séquence était relativement bien télégraphiée. Hein. Pour rappel, c'est titré en une des journaux américains hein, sur le fait que, on va dire, de l'imminence d'une attaque, limite l'heure précise et où ça irait, ça s'en est une. Je crois que la bonne tenue des marchés financiers, elle tient surtout au fait qu'il y a beaucoup d'espoirs qui sont mis dans la séquence qui vient de se jouer, c'est-à-dire beaucoup d'espoirs de désescalade hein, dans le contexte qui a pu se dérouler. On a l'Iran qui garde la face, on va dire. Il y a une réponse à l'attaque du consulat. Israël qui garde la face, il y a une coalition qui s'est mise en place. Ça n'a pas été Israël toute seule qui a répondu à ce qui a pu se passer. Et puis, là aussi, l'administration américaine qui appelle aussi au calme et, on va dire, à la non-escalade du conflit. Donc ça, je pense que c'est un élément. Sans doute qu'on a passé une première étape et que cette première étape, parce qu'il y a quand même plusieurs lignes rouges qui ont été franchies, que cette première étape, elle se passe mieux, en tout cas pas aussi terriblement que ce qu'on pouvait escompter. On ne croit pas chez Carmignac que ce soit la fin hein, de ce qui se passe, mais sans doute une pause dans ce conflit. Et donc les marchés, on va dire, saluent, en tout cas respirent, parce qu'ils pouvaient craindre le pire.
Christian, maintenant l'interrogation, ça reste la réaction de l'État d'Israël.
Oui, la réaction de l'État d'Israël, parce qu'on ne dira pas du tout la même chose si Israël se met à bombarder les installations pétrolières de l'Iran pour empêcher l'Iran d'avoir des ressources financières. On ne dira pas la même chose s'il y avait des sanctions beaucoup plus violentes vis-à-vis de l'Iran de la part de l'administration américaine, puisque c'est un pays qui est sous sanctions, mais on sent que les États-Unis, dernièrement, ont laissé un peu l'Iran exporter un peu plus de pétrole pour justement éviter des trous de tension. Et puis, on ne dira pas la même chose si, de son côté, l'Iran venait à bloquer le détroit d'Ormuz. Donc, tout tourne autour du pétrole. pétrole hein, pour les marchés. Hein. Je parle vraiment sur l'aspect que marché. Hein. Ouais. C'est vraiment le pétrole qui est au cœur.
Justement, sur le pétrole, on est repassé sous la barre des 90
dollars
pour le Brent.
Oui, mais parce que ça a été joué avant, très clairement. Hein. Si vous regardez les cours du pétrole, on a carrément 10 dollars de prime de risque qui s'est déjà installée sur les cours du pétrole. Alors après, c'est toujours la même chose, parce qu'il y a cette prime de risque géopolitique. Et puis après, si les cours du pétrole restent élevés, ils freinent l'économie mondiale aussi. Donc, il y a l'aspect négatif après que ça peut avoir sur les pays importateurs de pétrole. Un dollar fort plus un pétrole élevé, c'est quand même un élément qui est généralement très négatif pour la demande de pétrole hors États-Unis et donc l'Europe, notamment entre autres, ou les pays asiatiques.
On en parlera tout à l'heure.
Et donc
avec
forcément,
le niveau de l'euro.
Voilà, forcément, il y a un impact plutôt à la baisse sur les cours du pétrole. Si, encore une fois, la situation ne s'aggrave pas, parce que tant que les tankers peuvent passer et tant qu'il n'y a pas d'arrêt complet du trafic maritime, on n'est pas dans cette situation. Mais c'est vrai que les marchés vont rester très volatiles parce qu'on n'a pas de visibilité encore sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines.
Kevin Tauzet.
Oui, c'est que si on regarde tout le complexe des matières premières, ils tiennent plutôt bien. Alors il y a une prime géopolitique, certes. Je crois qu'il y a d'autres facteurs aussi. Hein, cette perspective de voir une réserve fédérale, vous y disiez allusion tout à l'heure, baisser ses taux d'intérêt, alors même que l'économie américaine croit au-dessus de ce potentiel.
Ça n'est encore pas joué.
Non, mais enfin, c'est ça qui se joue depuis quelques semaines. Hein, oui. La perspective de voir la Chine qui relance d'autre part, un rebond manufacturier qui semble se dessiner. Pour autant, voilà, si on regarde un petit peu sous la surface, il y a quand même pas mal de volatilité sur ces marchés des matières premières. Alors, j'entendais tout à l'heure, vous discutiez avec Stéphane de l'or notamment.
Oui.
On a vu des mouvements vendredi sur l'or. Extrêmement important. C'est censé être l'actif le plus sûr. Voilà, on est passé en séance à plus de 2% jusqu'à moins 1%. Et ça, sur quelques nouvelles. Alors, importantes certes, mais on voit bien quand même beaucoup d'activités sur ces marchés des matières premières. Marchés des matières premières qui ont sans doute un petit peu accéléré vis-à-vis des fondamentaux. Si on regarde la demande de pétrole, par exemple, elle n'est pas si prometteuse que ça aux États-Unis. Si je regarde la demande, par exemple, de la Chine, les importations de pétrole notamment, elles sont plutôt en contraction. Sur le mois dernier. Donc là aussi, il y a sans doute une forme de respiration sur le front de ces matières premières.
C'est intéressant également sur l'or. On aurait pu s'attendre à une flambée dans le sillage évidemment de l'attaque contre l'État d'Israël. Là encore, ça n'a pas été le cas. On reste proche de niveau record sur l'once d'or, mais on n'a pas eu de réaction, on va dire, épidermique ce week-end.
Oui, alors c'est vrai, mais l'or est déjà très cher.
Oui.
Il faut quand même relativiser, puisqu'on a quand même des banques centrales qui ont beaucoup acheté d'or. On a eu quand même un attrait de l'or depuis plusieurs mois. Et puis généralement aussi, faut pas l'oublier, l'or a du mal à monter lorsque les taux d'intérêt montent. Lorsque vous avez le choix entre mettre votre argent dans une obligation d'État américaine qui vous rapporte de l'argent ou dans l'or qui ne vous rapporte rien, il y a quand même un arbitrage à faire.
Stéphane l'expliquait tout à l'heure, c'est un actif qui n'a pas de rendement.
Et là, on a vu quand même l'or monter en étant totalement insensible à la remontée des taux longs. Donc on peut se dire aussi qu'il y a quand même cet effet peut-être de frein de la remontée des taux longs qui reste quand même un élément qui va peut-être empêcher l'or. Mais encore une fois, l'or est quand même déjà acheté cher et sur des niveaux très élevés encore.
Dans l'actualité cet après-midi, on va parler du chiffre qui confirme la vigueur de l'économie américaine, les ventes au détail. Plus 0,7% en mars, c'est pratiquement deux fois le consensus. Et les ventes du mois de février ont également été revues à la hausse. Ça confirme quoi? Qu'il n'y a pas d'urgence à baisser les taux aux États-Unis, Christian?
Oui, alors, juste un petit bémol avant, c'est un indicateur qui est en valeur, n'oubliez pas, donc qui est sensible à l'inflation. Si vous prenez par exemple sur un an, vous êtes sur une hausse de 4%, vous retranchez de l'effet d'inflation, vous êtes en hausse de 0,5%. Donc dans le 0,7, il y a aussi peut-être un peu plus d'inflation qu'on l'avait anticipé, le consensus. Ceci dit, ce bémol mis en avant, en volume, ça reste quand même particulièrement positif. On est sur une consommation qui se maintient, une consommation très dynamique, malgré le fait qu'on l'a vu vendredi, les consommateurs américains n'ont pas spécialement un moral euphorique. Ils sont plutôt négatifs sur leur pouvoir d'achat, sur leur perspective de revenus. Ils ont quand même des taux d'intérêt sur leur crédit à la consommation à 22%. Ça commence à faire mal. Ça commence à être un frein pour la consommation. Donc on se dit que quand même ils continuent de consommer malgré tout, et on voit une grande dynamique. On voit aussi un net rebond des achats sur Internet. On voit un net rebond des achats sur certaines biens discrétionnaire, qui n'aurait pas dû être finalement un peu délaissé par les ménages américains s'ils avaient eu un sentiment de pression sur leur pouvoir d'achat. Donc, c'est pas le cas. Alors, c'est vrai qu'ils ont aujourd'hui quand même des salaires qui progressent plus vite que l'inflation, donc ça leur donne un peu de pouvoir d'achat, c'est pas exceptionnel, mais ça leur donne un peu de pouvoir d'achat, mais on voit quand même une vraie résilience de la consommation, et ça c'est quand même un élément d'étonnement, et je dirais que pas d'étonnement seulement pour les économistes, mais aussi pour tous les membres du FOMC, hein, tous les membres de la Banque Centrale Américaine, puisqu'on pouvait lire dans les dernières minutes qu'ils ne comprenaient pas pourquoi cette économie américaine ne ralentissait pas plus, donc tout le monde est assez étonné quand même de cette résistance de l'économie américaine. Alors, encore une fois, il y a quand même des facteurs de soutien, le marché du travail qui reste tendu, des salaires réels qui sont redevenus positifs, il y a quand même des choses qu'on explique, hein. Mais c'est vrai que quand même on a l'impression que ce consommateur américain reste assez insensible à toutes les pressions qu'il subit quand même, notamment liées à la remontée des taux longs.
Kevin, la consommation aux États-Unis, c'est un thermomètre pertinent. Les Américains, ce sont des consommateurs.
Ouais. Alors les ventes au détail, c'est 20% de la consommation des États-Unis. C'est pas l'entièreté, mais quand même, c'est un chiffre qui est très important. Alors je suis désolé pour l'anglicisme, mais il y a, on va dire, plusieurs phases du jargon financier qui sont difficilement traduisibles. On dit souvent qu'il faut pas combattre la Fed, hein, don't fight the Fed. Je crois qu'il faut pas combattre non plus le consommateur américain, clairement. Et on le voit, hein, c'est-à-dire que toutes les catégories, sous-catégories de ces ventes au détail, quasiment la totalité, sont en progression importante. On l'a dit, hein, le revenu du travail en croissance de plus de 6% sur le premier trimestre. Oui, les Américains consomment. Alors, il y a peut-être voilà 5 week-ends sur le mois de mars, le week-end de Pâques, on consomme. Enfin bon, on doit consommer sur le papier plus de services et moins de biens. C'est pas ce qui se passe. On consomme et des services et des biens. Je crois que ce que ça montre, c'est bien qu'on est dans ce scénario de non-atterrissage de l'économie américaine. On s'attend pas à ce que l'économie américaine, eh bien, on va dire, atterrisse avant le troisième trimestre de cette année. Donc, voilà, là aussi, je crois que beaucoup d'économistes, hein, je parle pas pour Christian, mais beaucoup d'économistes n'ont de cesse de décaler quand est-ce que viendra cette récession aux États-Unis, et pour l'instant elle ne vient pas, ce qui là aussi peut voilà, mettre en question ce qui est anticipé par le marché en termes de politique monétaire.
Et il y a aussi des anticipations qui ont changé, elles concernent les baisses de taux aux États-Unis. En fin d'année dernière, on était sur 6-7 baisses attendues pour 2024. Désormais, il y a une hypothèse qui se renforce, notamment avec les chiffres d'aujourd'hui, c'est que la Fed opte pour le statu quo jusqu'aux élections au moins.
Oui, alors au moins, c'est qu'on aura un autre chiffre ce soir, alors un indicateur coïncident hein, de croissance économique ou d'estimation de croissance économique aux États-Unis qui sortira dans quelques heures, hein, ce fameux GDP Now de la Réserve fédérale d'Atlanta. Là aussi, tout porte à croire que cet indicateur-là montrera que la croissance américaine est au-dessus de son potentiel. Et donc l'économie américaine continue d'accélérer. Alors, ce qui est anticipé aujourd'hui par les marchés, c'est, on va dire, les deux baisses de taux pour cette année. Sur les 18 prochains mois, c'est 4 baisses de taux. Autant estimé qu'il y en avait 6 il y a de ça 4-5 mois, c'était sans doute trop. Hein. Aujourd'hui, se dire qu'il y en aura seulement 4 sur un horizon 18 mois, c'est peut-être trop peu. Donc c'est des choses qu'on peut mettre en place dans les portefeuilles.
Christian, vous y croyez, l'hypothèse d'un statu quo jusqu'à la fin de l'année ?
Alors non, parce qu'il y a un élément qui me fait dire quand même que la Fed va baisser ses taux, c'est que les taux réels montent énormément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez les taux directeurs américains moins l'inflation, et comme on a quand même un gros mouvement de désinflation qui est assez important, hein, donc vous augmentez le taux réel. Donc vous durcissez encore plus la politique monétaire. Donc tant qu'on est sur un mouvement de désinflation, alors je sais qu'il a ralenti, que les chiffres sont pas bons dernièrement, mais attention que sur l'indice des prix, mais tant que vous avez véritablement un mouvement de désinflation qui se poursuit, vous durcissez toujours un peu plus la politique monétaire. Donc je me dis qu'à un moment donné, ça va quand même avoir un vrai impact sur l'économie et ça laisse un peu de marge à la Banque Centrale Américaine. Maintenant, on parle, attention, si elle baisse les taux, on parle seulement de moins durcir la politique monétaire, mais surtout pas de revenir à une politique monétaire plus accommodante. Hein. Donc faut pas l'oublier. Donc
on reviendra pas à la situation ex ante.
Déjà, bon, Monsieur Powell a dit que quoi qu'il arrive, ils sont pas dans cette idée-là. Et puis en plus, ce qu'ils appellent le taux neutre, hein, le taux vers lequel ils pourraient tendre éventuellement pour être neutre sur l'activité, hein, ce taux neutre, ils viennent de le réviser à la hausse. Hein, donc ça montre qu'ils pensent aussi qu'il va falloir maintenir durablement des taux beaucoup plus élevés pour freiner l'économie américaine. Donc on parle pas on parle plus d'un mouvement technique que véritablement un assouplissement de la politique monétaire. Par contre, c'est important pour les marchés parce qu'à partir du moment où la Fed commence à baisser ses taux, vous réduisez la probabilité qu'elle ait maintenu trop longtemps, trop durablement, une politique restrictive pouvant entraîner une récession. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez à baisser un peu les taux réels, vous réduisez nettement le scénario le plus mauvais. Alors, il ne se produit pas pour l'instant, mais la probabilité qu'il y ait une récession est quand même beaucoup plus réduite si vous commencez à baisser les taux réels. Donc, c'est quand même important pour les marchés en termes de perspective économique, de risque économique, mais c'est vrai que pour l'instant, les indicateurs ne militent pas pour que la Fed se presse pour le faire.
Ouais, je crois qu'il y a quand même, on va dire, la fenêtre de la baisse de taux sur l'été, elle se réduit fortement avec les chiffres d'aujourd'hui. Et c'est vrai que si on se dit à votre question qui était de savoir est-ce qu'il est possible que la Réserve fédérale ne baisse pas ses taux d'intérêt avant le mois de décembre, oui, c'est tout à fait possible.
On est à 202 ou 203 jours des élections américaines.
Et c'est exactement la séquence. C'est-à-dire que cette séquence pour baisser les taux d'intérêt pendant l'été, elle se réduit avec des chiffres de croissance américaine qui tiennent extrêmement bien. Le marché de l'emploi, l'inflation, on l'a dit. Ensuite de ça, il y a une période électorale et on va dire, il est tout à fait probable ou il est possible que la Réserve fédérale le dise qu'elle n'agisse pas pendant cette période pour pas être accusée d'interférer dans les élections américaines.
C'est pas une règle, mais c'est une pratique.
C'est une pratique, c'est une possibilité.
Elle l'a déjà fait. Hein. Elle a déjà baissé ses taux ou monté ses taux juste avant les élections, mais c'est vrai que la réunion du 7 novembre est quand même un peu compliquée à gérer.
Et donc, ouais. Vous suivez le fil de ma pensée, c'est-à-dire que ça nous amènerait pour une première baisse de taux aux États-Unis au mois de décembre, et c'est tout à fait probable.
Et ce sera bien en 2024, même si c'est vraiment en toute fin d'année. On va voir quelles peuvent être les conséquences justement d'un statu quo, ou en tout cas de très faible baisse de taux aux États-Unis pour la Banque Centrale Européenne. Mais d'abord, on est à un quart d'heure de la clôture à Paris. Dernière ligne droite, vous l'entendez. Le CAC progresse de 0,3%. Il y a deux heures, on gagnait 1,3%. Ça s'est nettement réduit, cette hausse sur le CAC, plus 0,3%. Toujours parmi les hausses, Stellantis, plus 2%, LVMH, plus 1,5%. Et du côté des baisses, on a toujours Société Générale, Téléperformance et Capgemini pour les valeurs qui reculent. Un coup d'œil sur le Brent, on en parlait tout à l'heure, on est à 89,37 $ sur le baril de Brent et on est en baisse hein, malgré ce qui s'est passé ce week-end au Proche-Orient. On va revenir sur notre discussion et sur les banques centrales. En quoi est-ce que un changement de stratégie de la part de la Fed, c'est-à-dire statu quo jusqu'à la fin de l'année ou de très faibles baisses de taux, limite considérablement les options pour la BCE, Kevin?
Je ne sais pas si là, ça les limite, mais en tout cas, ça le cadre. Pourquoi? Parce que si, encore une fois, je déroule ce scénario-là, c'est-à-dire une réserve fédérale qui maintient ses taux d'intérêt là où ils sont aujourd'hui, on va dire jusqu'à la fin de cette année. Dans le même temps, on a une Banque Centrale Européenne qui, elle, nous dit qu'elle va procéder à ce que décrivait Christian, c'est-à-dire des baisses de taux pour pas maintenir des conditions monétaires dans un territoire qui serait trop restrictif. C'est à côté du mois de juin. Si je projette cette séquence-là, je me retrouve avec un différentiel de taux courts entre des taux américains et des taux européens de presque 2% à horizon.
Là, pour l'instant, on est à 100 points de base.
Ouais, à peu près. Et donc, ça nous amène à 2%. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quand même un différentiel de taux qui est bien largement en faveur du dollar américain. Un dollar américain qui peut s'apprécier. Bon, là aussi, si on doit estimer, on va dire, des niveaux, on pourrait dire que ça peut aller jusqu'à 1,05. Si ça va beaucoup plus bas que ça, on commence à avoir de l'inflation importée. C'est-à-dire que là aussi, il y a une dépréciation de 10% de l'euro par rapport au dollar américain. Ça veut dire qu'on importe de l'inflation de l'ordre de 0,4% sur de l'inflation totale. Donc, c'est pas rien. Hein, et ça peut venir relativement rapidement. Donc, ça peut contenir ce que peut faire la Banque Centrale Européenne. Je ne crois pas que ça va, pour le moment, le contenir. On a bien ce phénomène de divergence de politique monétaire. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas? Parce qu'on est dans cette phase où on va dire on évite d'avoir un environnement qui est trop restrictif. Si on avait des baisses de taux de la Banque Centrale Européenne pour venir vraiment renflouer l'économie, restimuler l'économie, là, ce serait problématique. Pour l'instant, je crois que ça ne le sera pas.
Christian Parizeau, Christine Lagarde disait il y a quelques jours qu'elle était data dependent et non pas Fed dependent, ce qui voulait dire qu'elle était officiellement, elle ne suit pas la Fed. Cela dit, ça va poser un problème si on a un écart de taux entre l'Europe et les États-Unis trop important. Ça va, ce que disait Kevin, affaiblir l'euro.
Oui, alors c'est vrai que l'agence Reuters a un peu cassé le discours de Mme Lagarde parce que pendant toute la conférence de presse, elle nous a dit « je me moque de la Fed ». Je grossis très naturellement, je me moque de la Fed, on prend nos décisions.
Mais c'est une question qui l'agace. Hein.
Ah ouais, ça a été posé assez largement durant la conférence de presse. Et puis, quelques minutes après la fin de la conférence de presse, dépêche Reuters, les membres du comité de monétaire de la BCE sont très inquiets d'avoir un décalage avec la Banque Centrale Américaine, selon des sources Reuters naturellement non identifiées, mais qui cassent complètement tout le discours qu'avait tenu Mme Lagarde. Alors pourquoi? Alors c'est vrai que ça a été dit, la Banque Centrale tient compte de l'effet change, mais au pire, elle pourrait l'intégrer dans ses prévisions d'inflation. C'est-à-dire dire, voilà, j'ai un écart de taux, ça va coûter tant sur l'inflation en plus, mais si véritablement le mouvement de désinflation se poursuit en Europe comme on a actuellement,
ça va être gommé.
Je peux l'intégrer dans mes prévisions. Ce qui commence à vraiment faire peur les membres du comité de politique monétaire, c'est d'une part qu'ils ont vu que la Fed s'était engagée à baisser les taux et que la Fed a été prise complètement à contre-pied par les indicateurs d'inflation qu'elle a eu en début d'année. Et ce qui fait peur à certains membres, c'est qu'ils voudraient pas voir l'inflation réaccélérer dans les prochains mois en zone euro, alors qu'ils promettent une baisse des taux et à être aussi pris complètement à contre-pied par rapport à ce discours. Donc je dirais que la principale influence qu'a aujourd'hui la Banque Centrale Américaine, c'est plus peut-être, on verra à l'avenir, je suis pas totalement convaincu non plus, mais c'est peut-être plus cette erreur de communication à avoir peut-être annoncé trop vite des baisses de taux alors que les indicateurs économiques les ont pris à contre-pied. Et donc certains membres de la BCE ont plutôt réagi en disant il faut pas qu'on commence à annoncer au marché un cycle de baisse de taux. C'est pour ça qu'elle a dit à seulement au mois de juin et on verra ensuite. Elle veut pas se prononcer ensuite parce que derrière il s'agirait pas de commencer à baisser les taux et voir l'inflation en Europe réaccélérer pour plein de raisons. Alors ça peut être le change, ça peut être le pétrole, ça peut être plein d'éléments qui feraient que les tensions inflationnistes reviendraient et ils seraient pris complètement à contre-pied. Donc c'est pour ça qu'elle va beaucoup communiquer. S'ils doivent le faire, ils le feront sûrement en juin parce qu'ils l'ont annoncé, mais en disant attention, ce n'est pas un cycle de baisse des taux parce qu'ils veulent pas être pris à contre-pied dans leur communication derrière. Et donc, c'est plutôt ça, à mon avis, qu'ils ont appris du côté de la Fed.
La réunion du 6 juin. Kevin, est-ce qu'on a en Europe un risque de reprise de l'inflation ? Christine Lagarde parle de bosse d'inflation. Aux États-Unis, c'est plus une bosse, c'est plus marqué.
Alors, l'inflation, hein, elle réaccélère aux États-Unis.
Oui.
C'est-à-dire que quand on a vu ce fameux pivot de la réserve fédérale américaine à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure, qui avait vu les taux d'intérêt baisser fortement et les estimations du marché de baisse des taux accélérer, on avait bien un phénomène de désinflation qui était important. Ce qui se joue depuis 3-4 mois, c'est qu'on a une réaccélération de l'inflation. Ça, je crois que c'est un phénomène qui est quand même tout à fait important. Vous soulignez que la Banque Centrale Européenne se disait dépendante des données. Il y a une séquence de données qui est importante. On va voir le détail des publications du PIB en zone euro au cours du mois à venir. On va voir aussi les résultats des négociations salariales également. C'est aussi un facteur très important.
Bien sûr. L'évolution des salaires. Les fameux effets de second tour.
Et quand une banque centrale vous dit qu'elle est dépendante des données, c'est pas une vue de l'esprit. C'est qu'elle se dit vraiment et qu'elle pense vraiment être dépendante des données. Donc, il faut bien avoir ces données et l'intégralité de ces données pour pouvoir décider. Est-ce qu'il y a un risque de réaccélération de l'inflation? On a parlé du change. Je crois que le pétrole s'en est un autre. Là aussi, si je regarde quelle est la correspondance, un mouvement de 10% de hausse sur le pétrole, ça contribue à 0,25% sur de l'inflation et ça vient relativement rapidement. Donc oui, ce mouvement-là existe bien. Il y a bien ce risque-là. Après, en Europe, on n'a pas une croissance économique qui est au-dessus du potentiel. Ça fait un an et demi qu'on est dans un environnement de stagnation et ça a vraisemblablement eu raison de la composante la plus cyclique de l'inflation.
Vous avez entendu la cloche, on est à 10 minutes du fixing sur le marché parisien. Aude, on progresse de 0,22% sur le CAC. À ce rythme-là, on se demande si on va finir dans le vert.
Ouais, ça fond comme neige au soleil, c'est vrai. Nos gains de ce matin, on n'est plus qu'à 0,2%. Et ce qui grimpe en revanche en flèche, c'est quand même ce qui se passe sur le marché obligataire avec les taux. On a le taux de 2 ans américain qui s'approche très dangereusement à des 5%. On est à 4,94%. Et le taux de 10 ans, lui, il est aussi très élevé, 4,63%. On a tout de même pris 11 points de base ces dernières heures. C'est un beau mouvement, en plus une hausse de cette ampleur. Alors c'est dû plus finalement encore à ce questionnement sur la baisse des taux et finalement cette donnée économique qu'on a eue aux États-Unis aujourd'hui sur les ventes au détail qui sont restées très élevées, que là aussi au contexte géopolitique qui ne semble pas nous toucher, ce risque d'escalade pour l'instant qui est mesuré. Donc pour le moment ça monte sur l'obligataire. On peut se préparer effectivement à franchir cette barre des 5% dans un monde où on n'a pas de baisse de taux cette année ou alors des baisses très tardives.
Merci beaucoup Aude, on se retrouve dans quelques minutes pour le fixing justement sur le marché parisien. Il reste 10 minutes pour le club et on va passer à la data room. Vous êtes venus l'un et l'autre avec une publication, une prévision, un chiffre que vous avez choisi et que vous souhaitez commenter. On commence avec vous Christian Parizeau, plus 22,2%, c'est votre data room, c'est la hausse du prix des assurances automobiles aux États-Unis sur les 12 derniers mois.
Voilà, sur un an. Alors vous allez me dire, bon, c'est une composante de l'indice des prix, mais c'est intéressant parce que ça montre bien la problématique qu'a aujourd'hui la Banque Centrale Américaine avec l'inflation. Alors, on parle de réaccélération de l'inflation aux États-Unis. C'est vrai qu'on a eu tout au long du premier trimestre, là, sur les 3 mois, des chiffres assez mauvais d'inflation aux États-Unis. Mais cette inflation, elle est liée, elle est concentrée sur quelques types de biens. Alors, dans les services, il y a notamment, c'est, je vous disais, 22% ce prix des assurances automobiles. 22%, vous allez me dire, bon, est-ce que c'est important? Bah oui, c'est important parce que c'est quand même 3% de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis. Et donc, ça explique 18% de la hausse des prix sur un an aux États-Unis. Et puis, il y a naturellement, vous avez tous en tête, les loyers, l'estimation des loyers, du coût de l'habitat, qui représente 38% de l'indice, mais 60% de l'inflation aujourd'hui aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on a une inflation qui est pas vraiment une inflation au sens économique, dans le sens que c'est pas une hausse généralisée des prix, mais c'est une inflation qui est tirée par quelques postes résilients, des postes qui ne veulent pas ralentir. Alors ça pose un énorme problème à la Fed pour plusieurs raisons. D'une part, c'est qu'on voit un décrochage entre l'indice des prix à la consommation et l'indice de référence de la Fed. Je vous prends un exemple, hein. Vous avez près de 1 point de différence dans l'inflation dans les services entre l'indice de référence de la Fed, qui est un indice large et donc qui noie un petit peu ces quelques postes qui sont vraiment dynamiques, et l'indice des prix à la consommation. Donc pour la Fed, il n'y a pas forcément une inflation très forte, mais ça pose un problème parce que aux yeux des Américains, ce qu'ils regardent, c'est l'indice des prix à la consommation, c'est pas le déflateur de la consommation, qui est une idée d'économiste très éloignée de leur vie quotidienne. Et donc finalement, les Américains, et on l'a vu encore vendredi dans l'enquête de l'Université du Michigan, commencent à réanticiper une accélération de l'inflation dans les prochains mois, parce qu'il y a quelques postes aujourd'hui qui sont très dynamiques, qui pèsent sur leur pouvoir d'achat, qui pèsent sur leur perception d'inflation. Donc c'est un vrai problème de communication de la Fed. D'un côté, elle peut dire l'inflation, c'est très concentré, donc c'est pas une vraie inflation, c'est pas très grave. Mais de l'autre, elle doit tenir compte de ses anticipations d'inflation et elle peut pas baisser ses taux si elle a pas une certaine crédibilité sur l'inflation. Donc on voit que les statistiques aujourd'hui sont très compliquées pour la Banque centrale américaine à intégrer dans sa politique monétaire.
Kevin, vous voulez compléter, commenter?
Ça prêche bien dans la séquence que je décrivais tout à l'heure. Et voilà, si mes primes d'assurance augmentaient de 25% sur un an, je pense que je le verrai passer. Et il y a aussi un autre phénomène, je crois, qui est très lié aux consommateurs, qu'ils soient américains ou européens, c'est qu'on a tous en tête les niveaux de primes d'assurance ou le prix de la bouteille d'eau, du paquet de tabac, le sèche du Carrefour, il y a 3, 6 ou 7 mois. Et ces niveaux-là, on ne les retrouvera pas. À moins d'arriver dans une phase de désinflation, on n'y retrouve pas.
Puis l'inflation, c'est un peu comme les températures. Il y a l'inflation réelle, puis il y a le ressenti. Et c'est vrai qu'on est plutôt sensible. Généralement, on remarque beaucoup plus les hausses que certains produits dont les prix baissent. On passe à votre data room à vous, Kevin Tauzet. 6 semaines, oui. C'est le délai entre le début des élections législatives en Inde, qui vont démarrer cette semaine, et la publication des résultats de ces élections début juin. Pour vous donner une idée de ce qui se joue, il y a pratiquement 1 milliard d'électeurs qui vont se rendre aux urnes.
Ouais, sans doute le plus grand exercice démocratique au monde. Hein, voilà, plus de 900 millions d'Indiens qui sont appelés à voter pour revenir renouveler le Parlement indien. À peu près 540-550 députés indiens qui seront, qui brigueront une réélection, qui seront en tout cas élus. Alors ça prend du temps à cette échelle-là. Ce qui semble se jouer, ce serait une réélection du parti de Monsieur Modi, le BJP. Pourquoi est-ce que c'est important d'en parler? Parce que je crois que c'est important aussi, je crois que tout à l'heure vous parliez de diversification, c'est important de prendre un peu le contre-pied de ce qui peut se passer ailleurs. Mais en Inde, il y a une croissance économique qui est forte, 7%, plus de 7% d'anticipé. Il y a une désinflation qui est forte. On a eu des chiffres d'inflation en Inde qui sont en dessous des 5%, et c'est bien enclenché. Donc voilà, ce scénario conte de fées avec une bonne économie, une économie qui tient bien et moins d'inflation, il se passe ailleurs, et c'est important, je crois, de regarder ailleurs de ce qui se passe chez nous en Europe ou aux États-Unis. La reconduction du gouvernement Modi, eh bien, ce serait une bonne nouvelle pour l'économie indienne et pour les marchés financiers. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup de réformes qui ont été mises en place par ce gouvernement, des dépenses d'infrastructures qui étaient importantes, un assainissement du secteur bancaire, qui est en très bonne santé. Là aussi, contre-pied de ce qui se passe ailleurs, on a des marchés immobiliers qui tiennent bien en Inde, qui sont aussi là aussi très sains, ce qui différencie fortement par rapport à certaines grandes économies
comme la Chine.
Émergentes comme la Chine, ou grandes économies développées où les marchés du immobilier se portent un petit peu moins bien. Et puis, on a aussi un gouvernement qui est très pro-business. Alors ça, c'est plus de l'anecdote. On a chez Carmignac la chance d'avoir des gérants, des analystes qui voyagent et qui vont en aide, qui sont même indiens pour certains d'entre eux. Et c'est bien ce que nous remontent les entreprises indiennes, les grandes multinationales indiennes, quand elles prévoient d'aller s'installer ailleurs, elles ont souvent un appel des autorités gouvernementales indiennes pour savoir qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour les aider. On a une forme de protectionnisme aussi, il y en a un qui existe pour dire protéger des champions nationaux dans le secteur technologique notamment. Donc on a toute cette accumulation de mesures qui ont été mises en place par le gouvernement Modi qui devrait se poursuivre s'il était élu, et on pourrait voir là aussi une prolongation, en tout cas une reprise des dépenses d'investissement avec cette incertitude liée aux élections une fois celle-ci levée début juin.
Christian Parizeau, c'est impressionnant ces chiffres. Je crois que c'est 960 et quelques millions d'Indiens, pratiquement un milliard, qui vont aller voter.
Oui, et surtout l'aspect démocratie devient de plus en plus important aussi pour les entreprises. Vous avez vu que les entreprises de plus en plus veulent diversifier leurs sources d'approvisionnement, ne plus dépendre que de la Chine.
Alors on appelle ça la stratégie China Plus One.
Voilà, et on s'est aperçu à un moment donné que le Vietnam était véritablement en figure de proue, hein, comme élément de... Et on a vu récemment, hein, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais il y a eu quand même quelques durcissements au Vietnam au niveau du gouvernement. On s'est aperçu que ce n'était pas vraiment une démocratie non plus, qu'il y avait quelques petits problèmes. Et tout de suite, on a vu un impact très fort sur les exportations du Vietnam. Il y a eu véritablement une relocalisation des chaînes d'approvisionnement vers d'autres pays. Et donc, je pense que l'image qu'on voit à l'Inde aujourd'hui est une image plutôt positive à ce niveau-là pour les entreprises qui sont vraiment très traumatisées par ce qui s'est passé en Chine. Et aujourd'hui, le risque politique est devenu un élément central aussi dans les choix de fournisseurs pour les grandes entreprises internationales.
Kevin ?
On rentre dans la saison de publication des résultats. Les attentes de croissance bénéficiaire en Inde pour cette année, c'est plus 20%. Hein. C'est l'année dernière. Donc c'est quand même voilà. Ça, je crois que c'est le bon signe de cette économie avec une forte croissance potentielle, une forte croissance embarquée, et les entreprises qui sont là aussi extrêmement performantes.
Mais est-ce que l'Inde est prête à remplacer la Chine ? On a vu qu'Apple a choisi de produire une partie de ses iPhones en Inde, mais qu'il y avait quand même des problèmes de qualité. Il y a un savoir-faire qu'ont acquis les Chinois, notamment Foxconn, qui fabrique les iPhones. Sur ce plan-là, l'Inde n'est pas tout à fait prête.
Alors, ça dépend des régions indiennes. Hein, une région, notamment la région de Bangalore, qui est extrêmement développée, hein, surtout le front, on va dire, de la délégation, de la sous-traitance informatique.
Informatique,
notamment.
Absolument.
Et ça date pas d'hier. Hein, c'est une tendance qui est là depuis une quinzaine, voire une vingtaine d'années.
C'est un secteur d'excellence de l'économie indienne.
Exactement. On a des ingénieurs en Inde qui sont extrêmement bien formés. Hein, certains, d'ailleurs, patrons de ces grands groupes technologiques américains sont d'origine indienne pour plusieurs d'entre eux. Donc voilà, je crois que c'est le signe là aussi que des compétences il y en a. Et d'ailleurs, l'Inde se concentre plutôt dans ce secteur, on va dire, manufacturier, industriel, avec une valeur ajoutée forte, que ce soit dans le secteur technologique, mais aussi dans des secteurs comme ceux de la chimie, plutôt que d'essayer de concurrencer l'Inde à un pour un sur certaines parties de la chaîne de valeur avec moins de valeur ajoutée.
Et puis n'oublions pas qu'il s'agit de diversifier les chaînes d'approvisionnement et pas de tout mettre en Inde. Je pense qu'on ne refera pas l'erreur qu'on a fait en Chine de tout dépendre à 100% de la Chine. Donc l'Inde est aujourd'hui un bon joker par rapport aux entreprises qui veulent se diversifier leurs fournisseurs.
Merci beaucoup à tous les deux pour votre participation au club. Christian Parizeau, économiste, conseiller auprès de Aurel BGC, et Kevin Tauzet, membre du comité d'investissement de Carmignac. Dans un instant, la clôture à la Bourse de Paris avec Aude Kersulec qui nous attend à Euronext. On est en progression de 0,34% et on est à une minute précisément du fixing. Et puis ensuite, on refera la séance avec Romain Daubry et Eric Lewin. À tout de suite.
À suivre dans BFM Bourse, la clôture à Euronext. BFM Business, BFM Bourse, la clôture à Euronext.
La clôture du marché parisien en progression de 0,43%. On termine dans le vert, mais Aude, on est très très loin de la progression qu'on affichait en début d'après-midi.
Oui, c'est ça. On pouvait espérer une hausse de 1% pour commencer la semaine, après surtout une semaine de baisse, hein, la semaine dernière, où on avait perdu 0,6%. Bon, on va se contenter de 0,4% avec les 8045 points touchés ce soir. La hausse, alors, elle est commune à l'Europe, hein, parce que le DAX prend également 0,5%. C'est plus 0,6% pour l'Eurostox 50. Mais c'est vrai qu'on aurait pu espérer beaucoup mieux. Alors, du côté des valeurs, qu'est-ce qui s'est passé ? On a quand même l'industrie, hein, qui a caracolé en tête avec Stellantis, plus 2,4%, c'est la première place du CAC 40. Et finalement, des actus entreprises assez limitées et le marché qui montait, bah, ce qui se passera demain. Stellantis, demain, on aura l'Assemblée Générale demain matin, qui pourrait être mouvementée. LVMH, on aura la publication demain soir du chiffre d'affaires du premier trimestre. Et bien, elle montait aussi ce soir de 1,7% à 794 euros, puisque le luxe est aussi bien positionné, hein, puisque Hermès est troisième, plus 1,4%. 4%. C'est un recul en revanche pour Société Générale. Alors c'est surtout des prises de profit parce que en fin de semaine dernière, on était quand même bien monté pour Société Générale avec l'annonce de cession dans le cadre du plan de Slavomir Krupa. Donc on perd à 3% à 24,98€. Et puis sur le SBF 120, bah tiens, on a Atos qui monte de 3,7% à 1,85€. Et Neoen qui chute tout de même de 6% sur des informations des Échos qui nous disent que eh bien, le financement du développement du groupe après 2025 suscite des interrogations. Donc ça effraie un peu les investisseurs. Voilà, on finit sur notre positive, plus 0,4% avec un volume de 2,9 milliards d'euros échangés. Finalement, comme à lundi, on a des investisseurs qui n'ont pas tellement réagi à ce qui se passait au Moyen-Orient et qui ont quand même gardé un certain attentisme par rapport à ça.
Merci beaucoup, Aude Kersulek, pour ce résumé de la séance. Avec nous également, Romain Daubry, Bourse Direct. Romain, 8045 points sur le CAC, où est-ce que ça nous mène d'un point de vue technique ?
Pour l'instant, on est en zone de neutralité. On est toujours dans une phase de consolidation. On vous épargne, il y a une heure de ça, de notre scepticisme quant au rebond du jour. Et en fait, on a des indices qui sont plutôt sans tendance et surtout une phase qui est propice au stock picking, et d'autant plus qu'on entame la saison des publications trimestrielles des entreprises. En plus, c'est une échéance technique des marchés dérivés qui se tiendra vendredi, donc des éléments techniques en plus de ça, et un intérêt qui est très faible sur les indices. Je rappelle que sur l'indice Eurostoxx, il y a 2 700 000 contrats futurs ouverts, alors que la moyenne, c'est 3 800 000. Donc sur les indices, pas grand-chose à faire, plutôt du stock picking à suivre sur les valeurs. Sur le CAC 40, c'est 7 981 en bas, 8 121 en haut. Si on arrive à déborder l'une de ces bornes, on pourra accélérer un petit peu, mais il n'y a pas beaucoup de momentum sur les indices pour l'instant.
Merci beaucoup Romain, vous restez avec nous. On va refaire la séance tout de suite avec Eric Lewin qui m'a rejoint en plateau.
BFM Bourse, on refait la séance.
Eric Lewin, directeur des publications Agora. Rebonjour.
Vous présentez à l'élection présidentielle, vous avez une tenue de présidentielle.
Non, de croque-mort, vous m'avez dit hors antenne. Je vous remercie. Non,
mais ça, c'était pas sympa. C'est ma pique quotidienne. Comme on n'a pas Christian Fontaine, c'est ma pique quotidienne.
Les bons mots d'Eric Lewin. Il paraît que j'ai une cravate de croque-mort. Vous pouvez m'écrire sur Twitter pour me le dire si vous pensez également qu'il ne faut pas que je la reporte. On va parler d'abord de la séance, évidemment. On aurait pu s'attendre au pire après ce qui s'est passé ce week-end, attaque de l'Iran sur Israël. Alors, on a été prévenu, puisque les journaux en parlaient déjà avant le week-end, donc c'est pricé quelque part. Mais finalement, les marchés ont encaissé la nouvelle.
On aurait pu s'attendre au pire, peut-être avant l'attaque, oui. Mais quand on a vu que l'attaque a fait simplement une fillette, certes, qui a été gravement blessée, on peut se dire que finalement, alors les gens vont sursauter si je dis ça, mais c'est un peu un non-event d'un point de vue économique, dans la mesure où le baril du pétrole, on l'a vu, n'a pas beaucoup monté. Il a même reculé aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il avait gagné 15% depuis le début de l'année, mais on a le sentiment que tant qu'il n'y a pas un vrai conflit entre Israël et l'Iran, quand je parle d'un vrai conflit, c'est le blocage du détroit d'Ormuz, Israël qui va taper les sites nucléaires en Iran, bref, tant qu'on n'est pas dans ce cas de figure, il n'y a pas de raison de craindre un embrasement, notamment parce que la grande angoisse existentielle, c'est que le pétrole aille vers $100. Si le pétrole va vers $100, on sait que toute hausse de 10% du baril, ça peut faire 0,3-0,4% d'inflation. Ça voudrait dire que les baisses des taux qu'on attend cette année, une à deux aux États-Unis, il n'y aurait pas de baisse des taux, et donc on serait dans un scénario un peu cata, ralentissement de la croissance mondiale, inflation qui repart, des taux qui ne baissent pas, et donc des marchés qui baissent. Tant qu'on n'est pas dans ce cas de figure, on peut rester relativement optimiste sur les marchés, avec quand même cet après-midi une tension sur le 10 ans américain qui est à 4,62, qui est au plus haut depuis novembre 2023. Pourquoi ? Tout simplement parce que les chiffres des ventes de détail qui sont sortis cet après-midi sont supérieurs aux attentes, et on s'aperçoit qu'aux États-Unis, alors qu'en début d'année on prévoyait 6 baisses de taux d'intérêt, si on en a 2 cette année, ce sera Byzance, dans la mesure où on a toujours une économie américaine qui a des handicaps comme ce déficit budgétaire qui représente 7% du PIB, mais une économie américaine qui est solide, et ça c'est vraiment l'excellente nouvelle de ce début d'année, même si certains peuvent se dire qu'à cause de ça, il n'y aura pas de baisse des taux. Mais moi, je trouve que tant qu'on a une économie solide et pas de baisse des taux, c'est très bien. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est une poussée de l'inflation. Et donc, tant qu'on n'a pas cette poussée réelle de l'inflation, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, la séance du jour, oui, on gagnait 1,2%, on gagne plus que 0,40%. Ce n'est pas si grave non plus.
Ouais. Vous y croyez, vous, au scénario d'un statu quo monétaire de la Fed jusqu'aux élections américaines ?
On sait que la Fed... Alors, on sait que Powell va sauter si Trump est élu, c'est ce qu'il avait dit.
Enfin, sur le papier, il ne peut pas le virer. Hein.
Il ne peut pas le virer, mais il peut ne pas le reconduire à terme.
Ouais, alors, il faut voir. Ans.
Dans deux ans, certes. Mais il peut lui faire les misères, il peut le contredire. On sait très bien qu'à deux, trois mois d'une élection américaine, la Fed est sur des charbons ardents. Elle n'a pas tellement envie non plus de trop se prononcer. Donc, que fera la Fed? Ben, au vu de la croissance, au vu de l'inflation qui ne baisse pas, puisqu'on est sur un train de 3,3-3,4% aux États-Unis, il n'y a pas de raison d'espérer de fortes baisses des taux aux États-Unis. Ce qui ne sera pas le cas, et j'espère de tout cœur que la BCE, je crois que c'est prévu pour juin, va enfin baisser ses taux d'intérêt. Parce que moi, j'ai regardé la conférence de presse de Lagarde. Très honnêtement, les justifications ou les justificatifs sur lesquels il n'y a pas de baisse des taux, faudrait m'expliquer. Je comprends pas, parce que quand on voit comment la zone euro est en ralentissement, avec franchement une espèce d'apathie, on peut se demander mais quand la BCE va enfin baisser ses taux d'intérêt.
Ouais. On va parler des valeurs qui se sont distinguées aujourd'hui. On commence par Total Energy. Alors, il y a un impact des cours du pétrole spot sur le jour. On est repassé sous les $90 le baril pour le Brent. Mais c'est une valeur qui avait beaucoup progressé.
Elle avait progressé de 11% depuis le début de l'année. On est à un plus haut historique. Total Energy, que dire? C'est un très beau dossier. D'abord, elle a des coûts de production. Je regardais, c'est entre 5 et 6 dollars. Par baril, donc elle a parmi les coûts de production les plus faibles au monde, et en tout cas nettement inférieurs à ceux des grandes compagnies pétrolières européennes. Dans sa politique d'investissement, je crois qu'il y a 36 milliards d'investissements, mais il y a la moitié qui est consacrée à des vrais investissements, c'est-à-dire le pétrole et les renouvelables, et l'autre moitié qui est consacrée rachat d'actions, dividendes. Donc c'est un groupe qui est très bien géré. Alors les gérants qui font de l'ESG vont me dire non, le groupe n'est pas ESG, on veut pas en acheter. Mais je crois qu'il y a eu un baromètre fait par la Caisse des dépôts où finalement ils ont une note supérieure à la moyenne. Et moi, ce que j'aime bien sur ce dossier, c'est que c'est bien géré. Ils ont les coûts de production, je disais, parmi les plus faibles de la planète. Ça se paye encore pas très cher, puisqu'en termes de rendement, on est entre 3,5 et 4 avec un PER de 7. Donc moi, j'ai le sentiment que Total peut redémarrer, d'autant plus que ce qui est intéressant, c'est qu'il est évident que si le pétrole monte, plutôt d'acheter des turbocalls ou des varans, comme aime le faire Romain Daubry, c'est sa grande spécialité. Moi, je considère que si on voit un pétrole aller vers $100, autant acheter du Vallourec ou autant acheter du Total Energy.
Ça, c'était la petite caresse pour
Il est très doué. Non, mais attendez, il est très doué là-dessus. Moi, je le critique pas du tout là-dessus, mais il est beaucoup plus.
Il est obsédé par les turbos et les varans.
Non, mais il est très bon. C'est son domaine de prédilection. Il faut en parler.
Romain, qui est avec nous, on est à $68.29 précisément à la clôture sur Total Energy.
68 euros.
Euros, c'est coté en euros, pardon, excusez-moi. 1,16% de baisse. 68,29 €, ça nous amène où?
Alors, ça nous amène pour l'instant une cible qu'on a touchée, c'est 69,30. On l'a atteinte la semaine dernière, et donc on consolide un tout petit peu depuis. Total, on a consolidé longtemps dans un grand trading range entre septembre 2023 et mars 2024, entre 56,05 et 62,30. Dès qu'on a débordé 62,30, on a réactivé une dynamique haussière, et une dynamique très harmonieuse, puisque le titre évolue au sein d'un canal haussier depuis octobre 2020. Donc c'est un parcours graphique très propre. 69,30, c'est une première résistance. Le titre pourrait consolider un peu entre 66, 74 et 69,30. Et puis les extensions ensuite, si on arrive à déborder ce niveau, c'est le haut du canal, et donc 71, 88 et pourquoi pas 76,05. On n'a aucune invalidation tant qu'on est au-dessus de 56,05, donc il y a vraiment de la marge pour le titre.
On va parler d'une valeur qui profite de la remontée des cours du nickel très récemment, c'est Eramet. Ce soir, le titre termine en progression de 0,76%, 72,65 €.
Ouais, enfin, c'est pas Byzance parce qu'on gagnait 3%. Il y a de nouvelles sanctions contre les métaux russes. Alors Eramet, c'est quoi? C'est du nickel, c'est du manganèse, mais c'est aussi du lithium au Chili et une usine qui devrait être opérationnelle en Argentine. La problématique l'an dernier, les résultats ont été plus que médiocre, dans la mesure où le nickel et le manganèse ont fortement baissé. Depuis le début de l'année, le nickel se tient bien. Doit gagner 10%. Je pense que c'est une belle recovery.
Ça se paie 13 fois les perspectives de résultats.
Alors, 13 fois 2024, mais sur 2025, vous allez dire que je suis embêtant. J'essaye de fignoler exprès pour vous contredire. C'est pas le fait. Sur 2025, ça vaut 7 fois les bénéfices. Donc, c'est un titre quand même qui est très, très en retard. Je crois que sur un an, il doit perdre 30% environ. Donc, moi, j'ai le sentiment qu'en plus, plus avec le lithium. Vous savez que le lithium est utilisé pour cette fameuse transition énergétique. Je trouve que le groupe est bien placé. Et pour peu que les métaux continuent à progresser, notamment du côté des nickel, c'est un titre que je verrais plutôt du côté des 90 euros que du côté des 72 euros actuellement. Donc j'ai plutôt envie d'acheter cette valeur. Encore une fois, plutôt qu'acheter des turbos sur le nickel ou des turbos sur le manganèse, aller chercher des produits non mais qui sont compliqués. C'est pas du tout une critique de ce que fait Romain, mais c'est compliqué pour un particulier d'acheter des cônes nickel ou des choses comme ça. Je pense que Eramet, c'est la parfaite société si on croit vraiment que les métaux vont continuer leur progression. Et en plus, on a un call sur la transition énergétique avec leur investissement dans le lithium.
Romain, on est à 72,65 €. Techniquement, qu'est-ce que ça donne, Eramet?
Alors, une précision quand même sur les produits effet de levier, c'est effectivement des outils extraordinaires, mais je ne travaille pas que ça et on ne propose pas que ça. C'est des outils à utiliser en complément du reste.
Il va se vexer, hein.
Ça, c'était non, mais c'était pour préciser parce que je veux pas qu'on croie qu'on est des spéculateurs, enfin têtus et voilà, on fait des choses beaucoup plus souples aussi. Et Vallourec, on est dessus et investi depuis le mois de novembre et des stratégies qui sont beaucoup plus souples aussi pour les investisseurs. Mais effectivement, le levier peut être utilisé pour protéger et défendre son capital et pas uniquement pour faire de la spéculation brutale. Parenthèse fermée, Eramet évoluait sous une ligne de tendance baissière depuis long terme et jusqu'au mois jusqu'au 25 mars dernier, la semaine du 25 mars, où elle a débordé cette ligne de tendance pour éventuellement réactiver une dynamique haussière. Reste qu'elle est bloquée dans un trading range 59-70, 75-20. Elle n'arrive pas à déborder le niveau de 75-20 pour l'instant, et c'est vraiment le plafond de verre. Si elle en sort, effectivement, on rejoint tout à fait les cours d'Eric, on arriverait à 90-30, première cible graphique sur le titre. Si en revanche on repasse sous 66-30, on invalide cette sortie par le haut, on invalide la recovery, et donc c'est un mouvement qui serait avorté. Pour l'instant, c'est vraiment 75-20 le plafond de verre à déborder, mais en accumulant en dessous depuis 3 semaines, ça pourrait arriver.
On termine avec deux entreprises qui vont publier dans les prochains jours, LVMH et L'Oréal.
Bon, alors du côté de LVMH, on attend une croissance organique de l'ordre de 3%. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la base de comparaison était très élevée l'année dernière, dans la mesure où, vous savez, la Chine sortait de toutes les restrictions liées au Covid. La problématique pour LVMH, c'est comment ça va se passer sur la Chine. Je crois qu'il y a un PIB chinois qui doit sortir. Je suis sûr que vous serez réveillé à 2h du matin cette nuit, Stéphane.
On est toujours réveillé.
On le commentera ensemble. On risque d'avoir une croissance de 4,5% du PIB, donc un léger ralentissement. On sent que le tourisme en Chine et la consommation, que ce soit Macao, que ce soit Hong Kong, c'est un peu plus compliqué. Donc on pourrait avoir peut-être une légère déception. Mais enfin, pour moi, ça a l'air d'être intégré dans les cours, dans la mesure où LVMH vient de perdre 8% en l'espace d'un mois. L'autre publie, c'est L'Oréal. L'Oréal qui vient également de perdre 8% en un mois. Alors la grande problématique sur L'Oréal, c'est est-ce que le leader mondial des cosmétiques va faire pareil que l'an dernier, où il a affiché une forte croissance, une génération de cash flow, je crois que c'était plus de 6 milliards, et surtout une rentabilité opérationnelle de 9,5%. Il faudra vraiment une bonne publication pour que le titre parte à la hausse, dans la mesure où quand on regarde les ratios de valorisation de L'Oréal, on est quand même entre 32 et 34 fois. Alors je sais que la qualité se paye en bourse. Je sais que L'Oréal, c'est l'excellence, mais le dossier me paraît un peu pricé. Du côté d'LVMH, j'ai oublié de parler des ratios. On est revenu sur un ratio de 23-24. Ça reste cher, mais on n'est pas dans les 60 d'Hermès. Donc, plutôt long sur LVMH, sauf mauvaise surprise, et plutôt neutre dans la période actuelle sur L'Oréal, avec peut-être des déceptions du côté des cosmétiques sur la Chine, qui pourrait amorcer un léger ralentissement. Janvier et février avaient été bons en Chine. On sent qu'en mars, les derniers indicateurs sont moins bons que prévu.
Romain, 794,80 € sur LVMH, c'est 90 € à la hache, en dessous des plus hauts historiques de l'action.
Ouais, et un secteur qui, globalement, le luxe, qui a moins le vent en poupe depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant. En analyse graphique, on observe la force relative, donc la force du secteur par rapport aux autres, aux benchmarks, donc soit l'Eurostoxx, soit le CAC 40 pour nous en Europe. Et effectivement, le secteur a moins le vent en poupe. Ça signifie que les opérateurs, les grosses mains du marché s'intéressent moins au secteur, et ça se traduit dans les cours. Alors, effectivement, LVMH a rompu un niveau de support entre 810,40 et 816, avec un gap baissier important le 5 avril. Ça donne une connotation, un biais un petit peu baissier sur le titre, mais c'est relativement canalisé avec des petits rebonds un peu marqués. Donc on est bloqué pour l'instant entre 810 et 772. Le biais est plutôt un peu baissier, mais mollement on peut dire. La cible idéale de la consolidation, elle renverrait le titre vers 740. Si en revanche on repasse 810-816, on peut réactiver une dynamique haussière qu'on de toute façon n'estime pas très forte et au débordement de 816 pour aller chercher des extensions entre 850 et 865. Sur L'Oréal, c'est plus baissier, c'est plus gênant. C'est un titre qu'on a proposé à la baisse il y a quelques semaines déjà contre 436. La configuration n'est pas excellente et c'est un titre qui bien souffre de cette sous-performance du secteur aussi. Pour l'instant, elle se bagarre entre 405 et 417. Il faudrait vraiment réintégrer en clôture 422 puis 431 pour réactiver une dynamique. Tant qu'on est sous ces niveaux-là, les chances d'accélération baissière sont importantes. Donc la première cible 405-40 et puis ensuite, pourquoi pas, 386-40. Ça laisse encore du potentiel de baisse pour le titre.
Merci beaucoup, Romain Dobry, info d'expert chez Bourse Direct. Eric, un mot pour terminer. On est à 3 semaines du mois de mai. D'habitude, en mai, on vend tout et on s'en va. Hein. Sell in May and go away.
Non, mais ça me fait marrer. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Il faut pas ramasser un couteau qui tombe. Non, mais.
Cela dit, ça se vérifie quand même assez souvent.
Ouais, mais on verra. Alors moi, ce que je pense, c'est que ce qui m'inquiète un tout petit peu quand même, c'est que je trouve qu'il y a plus tellement de catalyseurs sur les marchés. Je crois pas que les trimestriels vont donner le là, dans la mesure où on voit déjà que les premières publications, JP et Wells, c'était pas terrible vendredi, Goldman Sachs un petit peu meilleur aujourd'hui. Je pense que tout va se jouer avec l'inflation. Je crois que le vrai là, c'est est-ce que l'inflation
est de retour.
J'enlève le problème géopolitique Iran-Israël sur lequel on a déjà parlé, mais si l'inflation est vraiment de retour ou si l'inflation ne baisse pas et si on a des taux élevés, je pense que les marchés devraient quand même légèrement décroché. Maintenant, si on a des bonnes surprises du côté de l'inflation, notamment du côté des services, du côté de l'immobilier aux États-Unis, alors là, on peut être relativement optimiste sur les marchés. Mais encore une fois, j'ai quand même le sentiment que ce qu'on a fait au premier trimestre, sur les 4 premiers mois de l'année, ça m'étonnerait qu'on le reproduise sur les 4 prochains mois d'ici septembre. Donc je pense qu'on va rester dans une fourchette, aller 7007, 8002, 8300 points, et qu'on va naviguer en fonction de tout ce qui peut se passer sur les marchés, hors évidemment éléments géopolitiques.
Merci beaucoup, Eric Lewin, directeur des publications Agora. Le CAC, ce soir, termine finalement en progression de 0,43%, 8045 points. Dans un instant, Good Evening Business, je vous retrouve demain à 15h30. Très bonne soirée.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.